France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Laurie Agusti. J'ai lu Rouge Signal et ça a été mon tout premier gros coup de cœur de cette rentrée en bande dessinée. Avant même de parler de son propos, je suis complètement tombée sous le charme de votre dessin et surtout, surtout, de cette couleur qui m'a frappée dès la couverture.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est vrai que l'on est cueilli d'abord par la couleur, ongles peints, lumière d'un téléphone sur un visage, flammes et graffitis. Voici ce que réunit dans les tons orangé et rouge la couverture de Rouge Signal, nouvelle bande dessinée de Laurie Agusti. Dans une onglerie, des femmes frottent les pieds d'autres femmes, dessinent patiemment les motifs léopards du pouce à l'auriculaire et elles parlent. Elles parlent des hommes, les vieux, les jeunes, ce qu'elles fréquentent, ce qu'elles observent, ce qu'elles en pensent. Elles parlent du monde aussi, ce qu'elles observent, ce qu'elles en pensent. Et de l'autre côté, il y a Alexandre, 28 ans, commercial dans une société de matériel artistique, les couleurs encore. Et lui, il n'y arrive pas. La séduction, la relation, être un homme, il n'y arrive pas. Peu à peu, le discours haineux et misogyne des masculinistes lui donne l'illusion de reprendre la main dans ce qu'il se figure être une guerre des sexes. Une illusion totalement destructrice qui mènera au feu. Nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Laure Agusti.
Bonjour.
Laurie Agusti, votre bande dessinée Rouge Signal a paru aux éditions 2024. On est ravis de vous recevoir pour ce livre dans le Book Club. Soyez la bienvenue. Ici, on commence toujours par faire connaissance, prendre des nouvelles de nos invités autour de la table en parlant des livres qu'ils ou elles ont rencontrés sur leur parcours. Votre parcours à vous, il est notamment connu pour des livres à destination de plus jeunes lectorices. On avait parlé à ce micro de certains de vos ouvrages, notamment dans la rubrique de Mathilde Wagman, Lecture Jeunesse. Est-ce que vous avez vous-même grandi dans une maison où il y avait des livres ?
Alors oui, j'ai eu la chance de grandir dans une maison où il y avait pas mal de livres et où surtout j'avais la chance de pouvoir choisir des livres facilement et d'y avoir accès très facilement. C'est-à-dire que c'était un plaisir pour mes parents de m'acheter des livres. Et je voulais faire ce métier-là quand j'étais enfant.
Immédiatement, c'est quelque chose qui était présent dans votre vie comme désir, quoi.
Je voulais faire illustratrice. Autrice, pas tout à fait, mais en gros, j'écrivais et je dessinais des livres un peu pourris, hein, mais je voulais faire ce métier-là plus tard.
Est-ce que vous étiez entourée de livres où il y avait des images, où la place laissée éventuellement, on parlera ouais. des techniques que vous utilisez, mais à une expression graphique était présente ?
Oui, ma mère est enseignante en art plastique, donc il y avait du matériel, elle fait de la peinture à côté, donc il y avait du matériel. Il y avait quand même des livres d'art, et après mon père il travaillait en MJC, donc j'avais aussi l'occasion de sortir avec la MJC. J'ai eu la chance, j'ai eu un bagage culturel assez ouvert.
Est-ce que vous vous souvenez de choses qui auraient été marquantes à ce moment-là dans l'enfance ?
Le Magicien des couleurs a été super marquant. Ça a été une des lectures que j'ai...
Quoi ?
C'est un livre d'Arnold Lobel. C'est un livre qui est fait à la plume et à l'aquarelle, je pense, d'un anglais, j'imagine. Où en gros, le monde est gris et noir et blanc. Et en fait, ça va pas trop comme ça. Il y a un magicien qui invente les couleurs progressivement. Donc le jaune, il l'invente, mais ça éclaire trop les gens. Les gens sont éblouis, ils ont mal à la tête. Après, il invente le rouge, le monde est rouge et tout le monde se tape dessus. Le monde est bleu, mais tout le monde est un peu déprimé. En fait, à la fin, tout se renverse et le monde est tout coloré.
Et tout ça va trop bien.
Ouais. J'ai fait une comédie musicale dansée quand j'étais en primaire là-dessus. Et on faisait le gris, j'avais trop les boules.
Ça, ouais, c'est clair. Ça, c'est un moment d'enfance, du coup, plutôt de l'école primaire, vous dites.
Ouais, genre CP.
Est-ce qu'il y a comme ça une autre, si on avance un petit peu dans votre biographie, une autre grande étape en lecture ?
Va y avoir des lectures plus adolescentes, genre Boris Vian, ça a quand même été assez important à une époque. La bande dessinée, je l'ai rencontrée plus tard, en fait, où j'ai lu, j'adorais Snoopy quand j'étais, enfin Peanuts, quand j'étais début d'adolescence, genre 13-14 ans. Mais c'est plutôt quand je suis rentrée dans une école d'illustration où je me suis dit, mais en fait, là, va vraiment y avoir un cursus de BD, il faut que tu rattrapes ton retard. Et là, il y a des éditeurs comme les éditions Cornelius qui m'ont permis de rattraper avec Daniel Cloves. J'ai rencontré le travail de Chris Ware, j'ai lu ce genre de choses.
Qu'est-ce qui vous a appelé dans ce genre-là que vous découvrez d'un coup d'un seul et assez rapidement et en lien avec une nouvelle pratique parce que vous-même, vous vous mettez à apprendre plus encore le dessin ?
En fait, déjà, je suis très mauvaise en 3D. Et du coup, la sculpture, par exemple, c'est quelque chose où j'ai jamais eu d'affinité avec ça. Donc
attendez, revenons sur cette phrase. Ça veut dire quoi? Je suis très mauvaise en 3D. Ah, dans la pratique.
Ouais, dans la pratique.
Ah oui.
Non, la vision, ça va encore.
Mince, du coup, ça doit vraiment pas être pratique dans la vie d'être mauvaise.
Non, ça va. J'ai une vision encore normale. Non, mais dans la pratique, vraiment le volume, en fait, c'est pas quelque chose où j'ai des affinités avec ça. Et contrairement au papier, en fait, j'ai vraiment toujours eu un goût pour le papier. Et pour les histoires, et du coup, la narration sous toutes ses formes dessinées, c'est quelque chose qui me parlait. Et ça peut être autant vraiment du dessin, comme chez Hockney ou chez Henri Darger, ou la littérature jeunesse que j'ai quand même jamais vraiment abandonnée en tant que lectrice. Et après, la bande dessinée, où j'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire autre chose, qu'on pouvait jouer avec les cases... Et du coup, oui, des gens comme Chris Ware, ça a été très important. Mais aussi des gens comme, je sais pas, Dominique Goblet au Frémoc, où tout d'un coup, on se rend compte que la peinture et la BD, ça peut faire un seul objet mélangé.
Sublime travail. J'invite nos auditeurs et auditrices à réécouter un book club où Dominique Goblet était invité. Peut-être, puisque vous avez cité Boris Vian, et est-ce que... On peut aller un peu plus loin dans des lectures plus romanesques qui auraient été les vôtres, Laurie Agusti, s'il y en a eu des importantes.
Déjà, je suis plutôt une lectrice de fiction, et de fiction un peu vraiment au sens premier de ce qu'on imagine. C'est-à-dire que je lis pas tant d'essais que ça, ce qui est un peu contradictoire avec ce qu'on va dire par la suite.
Ouais.
Mais j'adore Henry James, par exemple. Portrait de femme, c'est mon livre préféré de tous les temps. Je trouve que ça montre très bien... comment une femme s'embrigade elle-même dans ce qui va venir après. Et donc ça, c'est une lecture aussi que j'ai fait un peu vers l'adolescence. Et aussi régulièrement, je lis des classiques. Là, cet été, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo, histoire de rattraper un peu mon retard sur ce que je connais pas.
Et vous dites aussi, j'ai jamais vraiment quitté la littérature jeunesse en tant que lectrice. Donc vous avez aussi une activité où vous avez écrit, dessiné des livres pour enfants, remarqué. Mais ça veut dire quoi, ne jamais quitter? C'est-à-dire que c'est des albums, par exemple, destinés à des enfants de 6-7 ans, vous avez continué à avoir un appétit pour ça?
Bah, en fait, vu que j'aime le dessin et la page, et vraiment le rapport, qu'est-ce qui se passe quand on tourne une page, qu'est-ce qui se joue en fait dans cette lecture d'images. La littérature jeunesse, c'est quand même un terrain
bon
en France qui est extrêmement riche et varié, où on peut passer de l'abstraction la plus totale à vraiment des systèmes de narration très complexes. Il y a vraiment de tout. On a vraiment la chance d'avoir un paysage très très riche en France en littérature jeunesse. Donc j'ai toujours regardé ce qui se faisait en littérature jeunesse.
Vous l'exprimez de manière extrêmement simple et efficace, de dire « j'aime la page ». Je pense que c'est la première fois qu'on me le dit de cette manière-là et c'est très beau. Est-ce que vous pourriez déplier, c'est le cas de le dire, un petit peu cette affirmation-là? Et peut-être comment est-ce que vous y venez? Comment vous comprenez « ah oui, en fait, ce que j'aime, c'est une page et ce qui se passe quand on la tourne ?»
En fait, je pense que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait du dessin hors page, où je me suis rendu compte que même une série de dessins qu'on accrochait côte à côte les uns des autres, en fait... les connexions qui se faisaient entre les dessins sont pas les mêmes que ce qui se passe quand on tourne une page où il y a un effet de surprise. Il y a ce qu'on va regarder en premier, en fait, quand on tourne, là où l'œil va aller, ce que ça va nous dire quand après on va reprendre le sens de lecture en Occident qui est de gauche à droite. Tout ce jeu-là, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et c'est vraiment ce que j'aime dans le livre.
C'est presque une des notions d'espace, d'architecture, de montage aussi. Ça pourrait être un peu toutes ces choses à la fois.
Il y a un peu tout. Il y a ce qui va attirer l'œil. En fait, c'est comme quand on lit une seule image où on voit très bien quand on observe en fait le schéma que fait l'œil en fait quand il regarde un tableau, on voit les axes de force et tout ça. Bah, je trouve qu'il y a un autre jeu qui se passe quand on tourne la page et qu'on voit ce qui se passe dans une double page avec la lecture en fait vraiment dans une image. Et donc il y a pas ça, c'est bien sûr quand c'est que du texte parce que ça joue un peu, mais pas vraiment. En fait, on se dit juste c'est quoi les pavés qu'il va y avoir, alors que vraiment dans les littératures d'images c'est très important. Et la bande dessinée, c'est intéressant de jouer avec ça. Parce que selon ce qu'on va mettre, en général, on a tendance à voir la page de droite en premier, mais on va revenir à gauche et va y avoir éventuellement un jeu entre les deux. Donc c'est intéressant de réfléchir à ça.
On va parler de votre livre Rouge Signal. Vous avez dit « je ne lis pas d'essais ». On va évoquer éventuellement de la documentation qui a pu se faire autour de ce livre-là. Mais mis à part la documentation, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont accompagné? Je ne sais pas si vous avez un lieu spécifique pour travailler, un atelier, mais est-ce qu'il y avait des livres autour de vous, des livres que vous regardiez spécifiquement dans ce moment-là?
C'est un peu anecdotique. Mais ceci dit, j'ai fait toute une partie de l'écriture et du storyboard à la BPI à Beaubourg. Et du coup, je voulais les remercier. Je sais que là, ils viennent de déménager, mais en fait, c'est un lieu qui est très pratique pour cette phase-là de travail. Il fait pas trop chaud quand c'est l'été.
C'est vivant, chaud quand c'est l'hiver.
Voilà, c'est un lieu que j'adore et que je remercie d'exister régulièrement, quoi.
Donc, vous alliez travailler à la bibliothèque publique d'information.
Personne vient nous embêter, on est très bien la bépine.
Du coup, quand je vous demande la constellation de livres qu'il y avait autour de vous, il y avait donc beaucoup de livres.
Beaucoup,
s'il y avait
les livres beaucoup, de la bibliothèque. Beaucoup, je n'ai jamais lu, quoi. Sinon, en fait, ça n'a pas été les mêmes du début à la fin. C'est-à-dire que j'ai commencé par lire des essais et après, ça m'a remémoré des fictions. Et du coup, je suis revenue vers des fictions que j'avais lues plus jeune. J'ai relu, par exemple, La pastorale américaine de Philip Roth parce que je l'avais lu ado et je me souvenais qu'il y avait une histoire de radicalisation dedans avec la fille du héros. Donc, je l'ai relu pour me souvenir comment... Quelle pente il avait mis et comment le personnage qui est le père et public de ça l'interprète. J'ai lu presque par hasard le livre des martyrs américains de Joyce Carol Oates. Quand j'avais basculé vers une narration en deux parties, et en fait c'était passionnant de voir un livre qui est lui-même construit en deux parties et de voir comment elle l'avait articulé, et ça m'a un peu confortée dans mon choix. Et après sinon plutôt des essais, ouais.
Et on y viendra dans un instant parce qu'on va parler de votre livre, Laurie Agusti, juste après cette chanson de Bébé Azul. C'est une chanteuse et compositrice argentine. La chanson s'appelle Incel. Incel, c'est un mot valise de langue anglaise pour dire involuntary celibates, célibataire involontaire en français. Ce sont des hommes qui se définissent avec ce terme, qui se rassemblent pour échanger, notamment sur des forums en ligne, et pour déplorer, je le dis très rapidement, on va tout déplier tout à l'heure, leur misère sexuelle et affective en appelant souvent à un réarmement symbolique ou malheureusement tout à fait réel dans le cadre de ce qu'il se figure être une guerre terrible entre les sexes.
Cuántas noches sin dormir van hasta ahora, papá me duele el corazón. Y yo que quería ser su señora, pero solo los locos se me enamoran. Se me turro pintado el cuello. Seas el de mi imaginación, el que dice gracias y pide perdón, y se ríe si se muere en el CSGO. Pero sé que le pegas a la pared, nunca lavaste un plato y fumas Party 100, y alguna vez entraste a Reddit y buscaste Incel. Quizá un día me mate si seguimos juntos, pero tenés tatuajes y eso suma. Del mundo, semi turro pintado con chute, casi furro y con el new full luce. Tal vez sin apuro queda que te cruce. Papi no se duro, acompáñame al Uber. Semi turro pintado con chute, casi furro y con el new full luce. Tal vez sin apuro queda que te cruce.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Quand j'ai rencontré Alex, c'était l'idiot utile du féminisme. Maintenant, il fait plus pour nous que pour vous tous réunis. Ce sont les mots d'Alan, sorte de gourou masculiniste qu'Alexandre, personnage de votre bande dessinée, Laurie Agusti, écoute au milieu d'une assemblée d'hommes persuadés d'y trouver de quoi retrouver son rang, sa puissance ou l'espoir de gagner des points dans ce qu'ils imaginent être une guerre terrible entre les sexes. On n'est pas si loin de la guerre en réalité. La rue dans laquelle se situe l'immeuble d'Alexandre et depuis lequel il épie les clientes et les professionnels d'un salon de beauté onglerie agit comme une tranchée. Un jour, cette tranchée est violemment et tragiquement franchie. Rouge signal comme autant de red flag, c'est le titre de cette bande dessinée qui est aussi toute une aventure plastique. Elle paraît aux éditions 2042. On en parle avec vous, Laurie Agusti. Alors, au tout début, on est plongé dans une sorte de magma, magma de couleurs, gros plans dont on ne sait pas si c'est des gros plans sur une matière imaginaire, sur de la nourriture, sur du feu, sur des paysages. Et l'on comprend petit à petit, grâce au dialogue, qu'on est dans un repas de famille et on est dans la famille d'Alexandre. Après ce plongeon-là de paroles et de matière, Alexandre se présente. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans. Je travaille dans une société moyenne comme commerciale, une société de matériel artistique. Je n'ai jamais dessiné, mais cela ne m'empêche pas de présenter les produits. J'aime l'écoute des gens à ce moment-là. Je parle, ils me regardent et ils passent commande. J'aime aussi les catalogues, trouver les bonnes combinaisons pour qu'ils achètent. J'ai un groupe d'amis, une corpulence moyenne et très peu connue de femmes. Ma mère a toujours été là et mon père est patron. J'ai une sœur, mais c'est plus facile pour elle. Là, je suis chez moi et je m'ennuie. Avant de rencontrer Alexandre, on a donc rencontré une sorte de milieu, presque comme si vous dépeignez un milieu biologique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce début ?
En fait, ce début, je l'ai écrit il y a très longtemps. En tout cas, pour une partie des dialogues, je l'ai écrit genre en 2018, un truc comme ça, quand l'histoire qui allait venir après n'était pas celle-là. J'avais cette idée d'un personnage qui allait mal et il y avait... Fallait que le personnage aille mal pour qu'il soit endoctriné. Donc à l'époque, c'était une femme. C'était une femme qui allait rencontrer une forme d'emprise dans un groupe. Je savais pas exactement quoi. C'est l'époque où j'ai lu pas mal de choses sur les dynamiques de groupe, les sectes, les choses comme ça. Et donc cette scène, à la base, c'était un personnage féminin qui, chez ses parents, était un peu atterré par les dialogues. Et dès le départ, j'avais cette idée de montrer la famille dans un truc le plus cliché possible de la famille, c'est-à-dire l'espèce de poulet du dimanche, que moi, j'ai pas connu trop, enfin pas tant que ça, mais via des gros plans. Donc ça, c'était là dès le départ.
Et pourquoi en fait, ces gros plans? Parce que c'est quand même c'est une plongée. Ça signe aussi quelque chose d'assez important dans notre entrée dans votre bande dessinée. C'est-à-dire qu'on est dans la matière, y compris dans la matière des couleurs, qui seront aussi importantes ensuite.
Je pense qu'il y a un biais de l'album, où la place de l'image est quand même très importante. Et vu que je trouvais que c'était des dialogues un peu déjà attendus, que j'avais envie, et vraiment extrêmement quotidien, que j'avais envie de décrire. Du coup, j'aimais bien que le dessin soit un contrepoint de ça, c'est-à-dire de montrer un poulet comme on n'avait pas l'habitude de le voir, plutôt que de montrer des personnages autour d'une table avec un poulet au milieu, ce qui est une représentation plus classique. Quoi.
Concrètement, pour nos auditeurs et auditrices, on est presque face à une planche abstraite. Et dans ce que j'ai là devant moi, où il y a des amas de couleurs, des effets de matière, et on a juste deux petites bulles qui sont rectangulaires. Alexandre, tu reveux du poulet. Et ensuite, chez mes parents, j'avais été un roi. Et en fait, on est plongé dans autre chose en même temps qu'on a ces phrases toutes simples. Donc il y a vraiment, oui, une façon de d'emblée tordre quelque chose.
Bah, j'aimais bien, en fait, vu qu'il y avait quand même cette idée, et ça du coup c'est venu après parce que c'était déjà l'avant, mais du rapport à la viande qu'après on retrouve dans ce groupe de mecs un peu, où la viande c'est quand même quelque chose d'important, et du coup de passer de ces arbres cramés quand on regarde la télé à cette carcasse de viande, c'était un truc qui m'intéressait d'un point de vue dessin, de montrer que ça il pouvait y avoir des similitudes. Et après l'idée de mettre le roi avec vraiment la carcasse démantelée, je trouvais ça assez intéressant visuellement.
Donc vous commencez par dessiner, penser cette scène d'ouverture avant même d'avoir exactement le personnage d'Alexandre et de savoir que c'est lui qui va se faire embrigader, et plutôt par des masculinistes radicalisés. Il y a quelque chose qui se fait. Alors comment vous cheminez pour que Alexandre arrive dans le costume que je viens de dire, c'est-à-dire là on est écriture sur page blanche, ouais. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans.
En fait le dessin est quelque chose à différentes étapes, c'est moteur. C'est-à-dire que je pense que dans les auteurs et les autrices de BD, il y a des gens qui sont plus dans l'écriture à la base, d'autres qui sont plus dans le dessin. Moi je viens vraiment plutôt du dessin et du coup... Même si je dessine pas au moment de l'écriture, je sais ce que je vais dessiner, donc je le note. Donc là, par exemple, devait y avoir certainement un petit croquis avec marqué poulet à côté de la phrase « J'avais été un roi ». Donc ça s'alimente les deux un peu en même temps. Et après, ça c'est des récits, mais c'est pareil pour les albums plus courts. Ça se construit vraiment petit à petit. Je découvre un peu le projet au fur et à mesure de l'écriture, c'est-à-dire qu'à la base on a des idées, puis il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on retire, et ça se construit. Et le personnage d'Alexandre, il s'est construit par sociologie, donc ce que j'imaginais de ce que je pouvais mettre dedans, par opportunisme narratif, c'est-à-dire qu'est-ce que, je sais pas, Par exemple, le matériel artistique, c'était à la fois pratique parce que j'avais le vocabulaire, mais en même temps, ça permettait de faire un parallèle avec les filles dans le salon en termes de ce qui se passe. Donc, il y a des choses comme ça.
Oui, parce que d'ailleurs, on peut peut-être s'y arrêter. La question de la couleur, on va entendre dans un instant Caroline, notre auditrice, on l'entendait en tout début d'émission, dire qu'elle a été happée par ça. Et c'est vrai, il y a vraiment une aventure de la couleur pour l'œil quand on lit votre bande dessinée, dès le titre d'ailleurs, Rouge Signal. Cet Alexandre, il est donc commercial, il vend du matériel, il le dit, bon, moi, je dessine pas, mais ça n'empêche pas de me débrouiller pour que les gens m'achètent du matériel d'art plastique. Et c'est vrai qu'il y a la palette des feutres et crayons et autres matériels qu'Alexandre vend, et il y a toute la palette magnifique aussi qu'utilisent les professionnels du salon de beauté, d'onglerie, pour dessiner sur les ongles. Comme si on était dans un univers où tout va devenir super violent. Il y a, je sais pas comment dire, c'est une ressource très vitale, la couleur.
D'un point de vue purement pratique, c'est quand même un sujet qui n'est pas ultra joyeux.
Savoir la violence entre les sexes.
Ouais,
les rapports
de domination, la frustration, parce que c'est aussi un récit que moi j'ai pensé pour essayer d'écrire Alexandre. J'ai quand même réfléchi à en fait, les moments où moi je suis frustrée pour rien et où je trouve que l'herbe est plus verte ailleurs. Parce que c'est un peu ça, lui qui vit, c'est-à-dire toujours penser qu'en fait, c'est lui qui est déclassé, alors qu'au final, c'est pas vraiment vrai. Et du coup, j'ai réfléchi à moi, les endroits dans ma vie où je fais ça. Et donc, c'était pas très joyeux. Il fallait que le dessin et la couleur, ça serve aussi à contrebalancer ça. Et après, c'est aussi que c'est ce que j'aime faire en tant que dessin. Enfin, la couleur, c'est toujours un truc, je fixe les gammes colorées très en amont des projets. Donc... Là, par exemple, il y avait l'enjeu des carnations. Je savais qu'il y en aurait plein. Il y aurait du marron, qui est une couleur que j'utilise pas tant que ça. Donc, ça s'est vraiment posé dès le début. Donc, ça s'est construit autour de ça. Et par exemple, Peur du soir, l'album, mon dernier album jeunesse, c'était vraiment centré autour des couleurs dans l'obscurité, donc les noirs et les jaunes. Et c'est le récit entier était construit là-dessus, quoi.
On écoute Caroline, notre auditrice. Elle vous a lu.
Bonjour le Book Club, bonjour Laurie Agusti. J'ai lu Rouge Signal et ça a été mon tout premier gros coup de cœur de cette rentrée en bande dessinée. Elle se remarque avec ses teintes rosées et une impression étrange qui passe sur la même couverture, une grande douceur et un sentiment d'oppression. Le propos ensuite, un sujet particulièrement difficile et auquel je m'intéresse déjà de par mes convictions féministes, le masculinisme n'est pas simplement expliqué, raconté, voire exposé. Non, vous le mettez en parallèle avec une magnifique représentation de sororité et de féminité dans tout ce que ce terme peut vouloir dire. Un très grand coup de cœur donc, et ma question pour vous est, comment avez-vous travaillé sur le masculinisme, un sujet et un milieu qui sont extrêmement violents, pour préparer cette bande dessinée? Quelles recherches avez-vous pu faire? Quelles personnes avez-vous pu rencontrer? Merci pour votre réponse.
Ben merci Caroline pour ce témoignage très précis de lecture, pour cet enthousiasme et pour cette question. Évidemment, c'est quelque chose que on se demande après avoir refermé votre livre Rouge Signal, Laurie Agusti. Comment vous avez pénétré ces milieux théoriquement, réellement, et comment vous vous êtes documentée?
C'est marrant d'abord ce qu'elle dit sur la couve, parce que la couve, en fait, j'en ai vraiment dessiné deux versions, une version bleue, une version rouge, et la version qui devait être la couve était bleue. Et le rouge devait être à l'intérieur, on devait ouvrir et avoir sur les pages de garde à l'intérieur le rouge qui saute aux yeux, et finalement le dessin rouge était mieux, donc on l'a changé au dernier moment.
Bon choix.
Ouais. Moi, je trouvais que c'était un peu redondant.
Ton sur ton.
Ouais. Rouge. Mais bon. En fait, j'ai commencé pour me documenter. J'ai fait différentes choses en parallèle. Je me suis beaucoup documentée en ligne. J'ai été sur des forums pour voir comment ils parlaient entre eux, pour essayer de comprendre.
Donc, on rappelle le « ils parlaient entre eux » peut-être. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui ne savent pas de qui on parle.
Il s'agit de forums, soit de hobbies particuliers, des forums de séducteurs. Des forums où en général des hommes parlent entre eux de ce qui va pas pour eux, ou de sujets complètement triviaux qui n'ont aucun rapport avec ça d'ailleurs. Et j'ai essayé de voir leur manière d'exprimer leur frustration, leur souffrance, de voir la manière dont ils parlaient des femmes, de voir la manière dont ils parlaient de sujets aussi complètement, encore une fois, banals. Après, en parallèle de ça, je trouvais ça pas mal d'avoir d'avoir une forme de théorie un peu écrite aussi par des hommes. Donc j'ai lu Le Premier Sexe, j'ai lu un livre qui s'appelle j'ai lu Fight Club, parce que Fight Club en fait est un livre qui est très très aimé en fait dans ces sphères-là. Un truc avec le joueur de dés qui est un mec de la Mystery Method. La Mystery Method, c'est une méthode de rencontre de femmes où en fait
le joueur de dés, c'est donc la théorie qu'il vaut mieux être celui qui jette les dés que le dé lui-même.
C'est pas ça. Non. Le titre est comme ça, mais c'est pas le joueur de dés. J'ai oublié le nom. C'est vraiment de la littérature un peu pas terrible. Hein, mais ceci dit, le mec de la Mystery Method explique comment. À la base, lui, ce qu'il veut, c'est séduire des femmes. Et en fait, à la fin, il se rend compte qu'il reste de ça un jeu de pouvoir entre lui et une horde d'hommes autour de lui. Et en fait, les femmes, on n'en a plus rien à faire. C'est vraiment devenu secondaire. Et ça rejoint un livre théorique que j'ai lu qui s'appelle Alpha Male, qui est une enquête sociologique sur les séducteurs, où, a posteriori, l'autrice dit qu'en effet, les femmes, c'est vraiment anecdotique et que c'est vraiment des placements de hiérarchie en fait, entre les hommes qui jouent. Et Dupuis Léry, la crise de la masculinité aussi, qui a été très important parce qu'en fait, moi, j'avais tendance à imaginer que la crise de la masculinité, elle était liée à MeToo. Et en fait, quand tu lis ce livre, c'est un Canadien qui l'a écrit. Les Canadiens, ils sont un peu à la pointe des recherches sur le féminisme, sur le masculinisme, sur les genres. Lui, il explique qu'en fait, la crise de la masculinité, elle est permanente. Et qu'en fait, il n'y a pas eu de période sans crise de la masculinité.
Elle est permanente au sens historique du terme.
Au sens historique. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui pourrait dater des années 70, qui pourrait dater des années 40 avec le droit de vote des femmes dans certains pays, qui pourrait dater du début du 20e, mais qu'en fait, non.
Mais quoi, elle serait intrinsèque à la condition de la masculinité?
Lui, c'est son constat. Et en tout cas, il donne différents exemples de témoignages d'hommes disant qu'en fait, la masculinité se perd tout au long de l'histoire avec un H très grand. Parce qu'il me semble que les premiers exemples, c'est genre vraiment l'Antiquité, quoi.
Mais à ce compte-là, on va dire que la masculinité serait en crise de la même manière que la féminité serait en crise et que une identité genrée ou une identité sexuelle, c'est une crise. Ce serait à peu près ça qui serait défendu.
Bah, il parle très peu du coup de la féminité, mais oui, pour moi, ça revient un peu à ça. C'est-à-dire qu'en fait, la binarité des genres est en crise.
Est en crise, ouais.
Et c'est une crise. Je suis pas tout à fait contre cette idée de toute manière.
Donc ça, c'est, on va dire, la documentation à la fois sur Internet et via des essais que vous avez fait pour écrire Laurie Agusti Rouge Signal. Est-ce que vous avez rencontré des gens? Est-ce que vous avez rencontré des hommes, des jeunes hommes, des vieux hommes?
Alors il y en avait malheureusement un peu qui traînaient dans mon entourage lointain. Donc j'avais des échos, par exemple l'idiot utile du féminisme, c'est une expression que j'ai entendue et que j'ai trouvée assez utile et bien écrite
dit,
en fait.
C'est dit par Alan, ouais. Le gourou du café dans lequel se réunissent cette bande d'hommes, en félicitant son nouveau petit poulain et en disant ouais. « Avant, Alex était un idiot utile du féminisme, maintenant il sert la cause ».
Bah, elle est intelligente, hein, cette expression, elle marche bien.
Elle est efficace, tout du moins.
Oui, oui, plutôt efficace. Et après, j'ai rencontré un journaliste qui, lui, avait enquêté là-dessus, qui a pu me faire un peu un débrief. Après, j'ai pas poussé l'investigation jusqu'à y aller dans des stages ou ce genre de choses. De toute manière, j'aurais pas été acceptée, quoi.
Parce qu'il y a des stages de formation pour récupérer sa puissance virile et,
ouais.
et en plus de pouvoir séduire des femmes, et ben, récupérer quelque chose qu'on aurait perdu. Laurie Agusti, vous le dessinez aussi. Mais parce que toute cette documentation, elle vient d'une question que vous vous posez à l'origine de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on a dit, bon, au début, vous ne voyez pas tout de suite apparaître le personnage d'Alexandre, puis il apparaît. Est-ce qu'il apparaît à la faveur d'une question à laquelle vous aimeriez répondre ou c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe?
En fait, la question, c'était vraiment qu'est-ce qui se passe entre l'individu et le groupe? Qu'est-ce qui fait ça vient d'un questionnement que j'ai moi, c'est-à-dire que surtout une journée de grève comme aujourd'hui, j'ai confiance dans le groupe. Enfin, je pense que le groupe est essentiel en termes de lutte sociale, mais en même temps, moi, je m'en méfie profondément dans mes amitiés et dans ma vie en fait. Et du coup, l'idée pour moi, c'était un peu d'interroger ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les groupes, les enjeux de pouvoir et de force. Et c'est comme ça que je suis tombée
pour le meilleur et pour le pire, vous voulez dire.
Exactement. Oui. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ces mecs-là et en fait l'ampleur de ce qui existait déjà et ce qui était déjà très bien installé dans ces dynamiques et ces différentes branches en fait des hommes. Donc c'est là que ça a un peu vrillé là-dessus, tout en allant aussi avec une forme d'envie de comprendre ce qui se passait et de peur un peu de... En fait, ils sont si nombreux, on en parle très peu parce qu'on en parlait très peu à l'époque. Qu'est-ce qui se joue en fait derrière tous ces gens?
Mais c'était comme une, disons que la question la plus profonde était la logique ou les mécanismes entre l'individu et le groupe, et finalement la question des masculinismes, la question d'un individu homme dans un groupe masculiniste. Ce serait une façon de préciser votre question, Laurie Agusti, ou de prendre un exemple.
Ben, en tout cas, ça, oui, ça, c'était vraiment prendre un exemple. Ça m'a un peu aidé à voir, du coup, j'aurais tendance à dire, les mécaniques qui m'effraient là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, comment il y a une forme de... Mais ça pourrait être un autre sujet, en fait. Mais comment on est radicalisé, comment on est embrigadé, et comment l'individu disparaît totalement pour un but commun. Et du coup, ça pourrait être autre chose. Ça, c'est que
oui,
ça.
Oui, vous disiez, finalement, je me suis renseignée sur des mécaniques de sexe, je me suis renseignée sur des mécaniques de groupuscules. Voilà, ça, c'est juste que là, il y avait quelque chose qui s'illustrait, quoi.
Oui, oui, oui. Et aussi, dès le départ, en fait, ça permettait d'avoir ce contrepoint où... d'un groupe de femmes, d'expliquer du coup d'autres mécaniques de groupe qui sont, je trouve, plus horizontales en fait.
Parce qu'en effet, il y a la trajectoire d'Alexandre, Alexandre au travail, Alexandre avec ses collègues, Alexandre ensuite qui va rejoindre ce groupe qui semble lui donner comme ça l'illusion de pouvoir reprendre la main sur sa vie d'homme. Et puis il y a de l'autre côté de la rue, que j'ai qualifié tout à l'heure d'une forme de tranchée de guerre, d'abord invisible et ensuite très concrète, un salon, une onglerie, donc un salon de beauté où des femmes travaillent et des femmes viennent se faire peindre les ongles.
« 17h, c'est ça? T'es déjà venue, non ?»«
Oui, pour mon mariage. »«
Ah, et là, tu viens pour le divorce ?»« Non, non, tout va bien. Enfin, oui, on s'est séparés, mais ça va, c'était rapide. »« Ah bah, c'est le mieux, comme pour les pansements. »« C'est sûr qu'avec tes divorces, tes 5 divorces, toi, tu parles d'expérience. »« Moi, j'aime les gens jeunes. 20 ans, c'est bien, pas après 25. »« À cet âge-là, on se marie pas, on s'amuse. »« Pas de petits, hein, par contre, j'aime bien me sentir contenue. » Je veux des petits, mais juste en âge, quand ils sont encore naïfs. Mon mari faisait 1m90, bah ça n'a pas suffi manifestement à me contenir. À 20-25 ans, ils sont contents d'être avec toi. Il n'y a pas d'enjeu, et puis sexuellement, tu peux les former. Les hommes te remercient. Enfin, une femme qui les comprend. Moi, j'ai une technique. Quand tu as repéré un mec qui te plaît, tu vas le voir, sans rien lui dire. Tu lui files ton numéro, et puis tu te casses. Dans les 3 heures, t'as un texto. Si c'est un divorcé, t'auras une dick pic. Mais ça marche, ça? À tous les coups. Ils ont pas l'habitude, ça les excite. Moi, je recycle mes nudes. J'ai un dossier avec ceux qui marchent. Bon profil, bonne lumière. Je les ressors quand j'ai besoin et puis je fais des envois groupés. Ah oui, ça c'est la base. Comment on fait un bon nude? Lumière naturelle, bougie ou lumière colorée. Pas vert, mais bleu. Ça marche bien sur les peaux noires. Jamais de symétrie. Après, ça fait penser au film de l'Américain. C'est pas sexy. Donc, toujours une jambe tendue et l'autre pliée. Sinon, il y a l'angle. Je sais très bien où mettre l'appareil, selon l'effet que je veux obtenir. C'est un plus gros, plus petit. Vous voulez un soin avant? Ah oui, je veux bien, j'ai les mains sèches. Marley, tu viens juste de finir ton rendez-vous de 16h30? Bon, attention, parce que tes 15 minutes de retard à la fin de la journée, ça s'additionne. Venez avec moi. Bon, je suis désolée pour le retard. Pas de problème. C'est la plus douée, mais c'est pas la plus rapide. Une diva. Par ici. Ah, désolée. Désolée encore. Vous savez ce que vous voulez? C'est vrai qu'à 20 ans, ils sont plus fermes, plus légers aussi. Le théorème de Leonardo all over again. Moi, j'aime bien les mecs plus vieux. J'ai l'impression d'avoir un avantage sur eux. Ça rééquilibre les choses. Mais divorcer, c'est sexy, hein, franchement. Quand tu coches la case, par contre, pour les impôts, tu le sens pas comme ça, mais ça marche bien sur les sites de rencontres. Ah oui, vraiment? Ah ben je me fais un profil de divorcé direct. Par contre, ça attire plutôt les vieux et les mecs en couple. Bon, je vais mettre un petit peu de musique.
d'abord une de nos tentatives, plutôt réussies, de lecture de bande dessinée en direct à la radio. C'est Jeanne Aléos qui lit Rouge Signal. Votre bande dessinée, Laurie Agusti, on est de l'autre côté de l'immeuble d'Alexandre, du côté de ce salon de beauté, une onglerie où des femmes viennent majoritairement se faire peindre les ongles, même s'il y a aussi des soins des pieds, peut-être une possibilité de se faire masser.
Elles font des petits massages.
Ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord. Donc ça, c'est l'autre espace. Il y a ce vis-à-vis que vous créez. Et ces femmes, donc, il y a leur corps, leur peau, leur visage, leur bouche et leurs mots. Elles parlent, elles aussi. Elles parlent des hommes. Juste avant, on avait eu, quelques pages plus tôt, une assemblée d'hommes qui parlent de femmes. Ah, elle t'a répondu vite. Bah, dans ce cas-là, fais la galérer. Ne lui réponds plus. Tu vas voir, ça marche très, très bien chez les 28 et plus. On pourrait presque considérer qu'il y a une équivalence, en fait, dans un premier temps, Laure Agusti, entre la manière dont ces hommes parlent des femmes et puis, quelques pages plus loin dans ce salon, la manière dont les femmes parlent des hommes. Sauf qu'évidemment, ça va déraper. Mais est-ce que cette équivalence ou ce semblant d'équivalence vous intéresse ?
Et il était vraiment très choisi de ma part. Je me suis dit que je voulais pas qu'elles soient parfaites, les femmes, et c'était très important pour moi qu'elles soient vivantes et qu'en fait elles puissent dire des choses avec lesquelles moi je suis pas nécessairement d'accord. Et j'aimais bien ce parallèle de elles veulent des hommes jeunes, ils veulent des femmes jeunes. Mmh. Ils les veulent pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que quand même les deux expliquent pourquoi ils veulent des gens plus jeunes, et c'est pas exactement le même équilibre en fait qui ressort de tout ça.
Et éventuellement ça ne se vaut pas non plus, on pourrait dire.
Non, clairement. Voilà. C'est-à-dire qu'il me semble que le personnage Alan, quand il parle d'avoir une femme jeune, il parle tout de suite d'utérus en fait et de reproduction. Là où elle, on sent que par exemple pour la sexualité, il y a une forme d'équilibre à trouver et que c'est peut-être plus facile avec quelqu'un de plus jeune. Et l'idée, c'était que même si les deux peuvent avoir des discours qui sont pas des discours égalitaires, en fait, la conséquence n'est pas du tout la même et que le chemin qui va suivre est complètement différent.
D'ailleurs, ça fait partie des argumentaires masculinistes de dire, mais vous voyez bien, elles aussi, les femmes aussi font ça, les femmes aussi disent cela, les femmes aussi ont des techniques, les femmes aussi ont des manipulations pour nous avoir, sauf qu'à la fin, j'ai devant moi un article de Mediapart paru en juillet 2025 qui fait une enquête sur les attentats masculinistes qui est une menace grandissante en France et qui propose des chiffres et qui dit que voilà notamment une violence perpétrée à Saint-Étienne se révèle être directement inspirée d'une idéologie incel qu'on développait tout à l'heure. Donc il y a une sorte de conséquence ultra-violente qui n'a pas lieu chez les femmes de ce salon. Pas du tout d'ailleurs.
Bah, en fait, quand j'ai commencé à découvrir l'étendue de ça, j'ai découvert en fait le nombre d'attentats qu'il y avait eu au Canada et aux États-Unis,
perpétrés par des hommes, se réclamant de cette idéologie,
exactement, ou même les premiers, non, c'est se réclamant de la haine des femmes, tout basiquement. Et j'ai cherché du coup parce que les féministes, on les a beaucoup taxées de violence, beaucoup taxées d'agressivité, beaucoup taxées de vraiment être un péril, quoi. Et en fait, j'ai regardé s'il y avait un historique en fait des violences féministes, et en fait, c'est vraiment ridicule. Il y a des suffragettes en fait qui ont mis le feu à des boutiques pour avoir le droit de vote en Angleterre. Il y avait les Solanas qui on sait même pas exactement ce qui s'est passé avec Warhol, mais ça reste quand même quelque chose de mineur. Et en fait, la violence féminine, elle reste dans les mots, quoi. Et c'est pas le cas de l'autre côté, c'est pas le cas chez ces hommes-là. Donc c'est pour ça que c'était très important que...
D'ailleurs, elles le disent, ces femmes du salon de beauté, elles disent quand eux seront armés, nous, qu'est-ce qu'on aura ? Nous, on aura de la sauge, du tarot et nos amitiés, notre sororité. C'est aussi quelque chose qui est discuté, cette inégalité des forces, au final.
Ça, je l'ai glissé, parce qu'à la base, il y avait une troisième partie avec une personne seule et féministe. Et en fait, on l'a supprimée. C'est les éditeurs qui ont commencé à dire, mais en fait, ça marcherait mieux en vis-à-vis direct. Qu'on l'a supprimée, et donc je l'ai intégrée dans le personnage de Lulu. Et ça, c'est très important. Enfin, pour moi, c'était très important de le mettre, parce que quand je vois les rayons sauge dans des grands supermarchés, les choses comme ça, et après tout ce que j'ai lu, j'avais vraiment un sentiment de... Mais c'est pas du tout... Enfin...
Peut-être on peut préciser le sous-texte, donc la sauge, on va dire qu'il y a des espèces de rituels d'apaisement des lieux, ouais. Que ça peut être lié parfois à un mouvement très sérieux, lui, hein, d'écoféminisme, mais qui peut avoir quelques aspects ésotériques. Et en tout cas, l'un des personnages dit, mais nous, c'est ça, en fait. Nous, c'est ça, nos outils, c'est de faire des petits cercles mignons avec de la fumée qui sent bon. je raccourcis, hein, mais ça fait partie de,
oui, moi aussi,
de ce que disent, de ce que disent les.
Bah, en fait,
les
ça a été tellement rattrapé par le capitalisme, quand même. Toute cette partie-là, quoi. J'ai tendance à méfier et à me dire qu'en fait, c'est là qu'on veut que les femmes soient. C'est-à-dire qu'en fait, si elles sont en train de faire des rituels et de brûler de la sauge pour aller mieux, pendant ce temps-là, c'est pas elles qui prennent la parole publiquement, politiquement, économiquement, ce genre de choses.
Oui, et elles disent aussi qu'elles sont tout à fait conscientes de toutes leurs contradictions, y compris d'ailleurs sur le plan affectif et sexuel. Elles sont assez, on va dire, éclairées, ces femmes que vous mettez en scène, Laurie Agusti. Par exemple, elles prennent beaucoup de plaisir à se peindre les ongles, à toucher leur corps, à être ensemble. Il y a vraiment quelque chose que vous peignez de manière très charnelle de ce que ça peut être concrètement la sororité dans ce salon de beauté. Et en même temps, elles se rendent bien compte qu'elles mettent des pièces en plus dans un capitalisme que tu as parfaitement compris que le self-care et le fait de prendre soin de soi et d'avoir des bonnes routines pour sa peau et de se faire masser pour aller mieux et d'avoir des temps de détente pour souffler, pour respirer, pour se défaire du patriarcat, c'était une manne financière tout à fait considérable.
Bah, et j'aimais bien ce côté paradoxal et c'était très important pour moi. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais je voulais qu'elle soit complexe, en fait. Que déjà, les liens entre les différents personnages dans le salon soient intéressants, mais que
en fait, différent.
Ouais, que ce soit pas vraiment un cliché, qu'on s'éloigne de ça. Mais pour Alexandre aussi, j'ai essayé, en tout cas, que des deux côtés, il y ait de la réflexion.
Pour Alexandre, par exemple, qu'est-ce qui a fait que vous n'en faites pas un cliché d'un homme malheureux en amour et en sexe qui va finir par tout brûler? Qu'est-ce qui fait que vous tenez une ligne pour que ce soit autre chose?
En fait, j'ai essayé de montrer qu'il en arrivait là par plusieurs choses autour de lui qui font qu'il se retrouve à penser ce qu'il pense à la fin du livre. Mais aussi, je voulais qu'il réfléchisse. Et qu'on, en tout cas, on le voit pas parce qu'en fait, il y a plein de moments avec Alexandre où on le voit juste scroller. Mais il y avait quand même l'idée que... Il cède pas à la facilité tout de suite. Il essaie de réfléchir.
Il se pose des questions.
Ouais, il se pose des questions quand même. Je voulais pas que ce soit juste dès le départ le personnage est foutu et on sait ce qui va se passer quoi.
On va écouter la voix d'Adrien Brassard, psychologue et relié à la PJJ. En 2023, il fait le lien entre l'injonction à la virilité et la violence masculine.
C'est vraiment dans l'enfance où tout ça se construit en grande partie. Quand le petit garçon va exprimer ses vulnérabilités, pleurer, demander de l'aide, etc., ou ne serait-ce des besoins affectifs, un besoin de proximité, d'attachement à l'autre, si à ce moment-là, la personne, l'adulte, va venir invalider sa souffrance, va répondre durement, voire de manière humiliante pour l'enfant, ça va créer une sorte de traumatisme qui, très rapidement, va amener l'enfant à arrêter d'exprimer ses vulnérabilités, à se construire une carapace. Et ça va inscrire en lui une blessure de l'ordre du sentiment d'impuissance, de la faiblesse, qui va le rendre d'autant plus intolérant à la frustration par la suite. C'est comme si ça ravivait le couteau dans la plaie. Cette intériorisation qu'il faut être fort et cette dévalorisation de la faiblesse, ça va rendre les garçons beaucoup plus intolérants à la frustration. En particulier, la frustration causée par autrui. Ils vont vivre ça vraiment de manière humiliante comme un signe de faiblesse. Donc faire un compromis, céder sur son désir, se remettre en cause, tout ça va être vécu comme une faiblesse. Donc le consentement va être extrêmement problématique pour ces hommes. Ils vont être vraiment dans un désir, sur tous les aspects de leur vie, d'imposer le leur. Et on comprend donc que le féminisme, la libération des femmes sur tous les aspects, les terrorise, parce que plus les femmes ont de pouvoir, plus elles sont libres, plus c'est un pouvoir de les frustrer. Et donc le patriarcat va être extrêmement rassurant pour ces hommes, comme si le patriarcat tenait place pour éviter un maximum de les frustrations aux hommes.
On a parlé tout à l'heure, Laurie Agusti, de toute la documentation que vous avez réunie autour de votre ouvrage Rouge Signal. On entend ici Adrien Brossard, psychologue lié à la PJJ en 2023, a proposé une voie d'explication entre des impératifs qui pèse sur les petits garçons dans l'éducation aujourd'hui occidentale et patriarcale et une traduction vers la violence. Il n'y a pas de ligne droite, il n'y a pas d'autoroute entre les deux. Néanmoins, c'est une possibilité de le penser. Est-ce que... Alors là, c'est pas tant au personnage que vous avez écrit que peut-être à l'autrice que vous êtes. Est-ce que chercher à comprendre, c'est s'éloigner du combat? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la bande dessinée où finalement, c'est la violence qui gagne, quoi. C'est vraiment la violence qui gagne au sens où, à la fin, on peut dire ou pas? On va pas dire. Mais en tout cas, il y a de la violence, quoi, très forte. Il y a des corps abîmés. Et les corps abîmés, ben, c'est quand même ceux des femmes, quoi.
C'est une question que je me suis posée. De où est-ce que j'allais jusque à ce niveau-là? De même que la représentation de la sexualité, je me suis posée. En fait, c'est les deux questions qui étaient un peu clichés, qui étaient à quel point le sexe est important et un enjeu, en fait, dans tous ces rapports de domination, et à quel point j'accepte d'abîmer les femmes à la fin. C'était les deux questions que je me suis posées. Et pour le sexe, j'y ai répondu en me disant, en fait, c'est trop important et c'est trop sous-jacent dans plein de tensions qu'il y a. Donc, quand même, il y aura une scène de cul, même si je la dessine... on voit pas grand-chose, quoi.
Et c'est pas n'importe quelle scène. Je pense que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous choisissez de dessiner comme sexualité, non?
En fait, à la base, elle était plus longue et du coup plus sexuelle et les dessins étaient pas terribles parce que c'était des gros plans et en fait, je me suis rendu compte qu'un rapport sexuel dessiné en gros plan, on se rend pas vraiment compte que c'est un rapport sexuel et on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Donc en fait, ça s'est attardé sur le baiser. Et du coup, c'est devenu une scène de cul avec un female gaze un peu, ce qui aurait pas été le cas. Dans ce que j'avais anticipé à la base, mais c'est vrai que les gros plans marchaient pas. Et c'est aussi le dessin qui m'a un peu sauvée pour la fin, où j'abîme les femmes, mais en même temps, on le voit pas, et j'ai voulu que ça se passe d'une manière beaucoup plus en sous-titres, en fait. Mmh. C'est pas vraiment dit. C'est un peu ce qui m'allait le mieux, ce avec lequel j'étais le plus à l'aise.
Mais par contre, ça devait se terminer comme ça. C'est-à-dire que pour vous, il y avait quelque chose de réaliste à ce que cette histoire se termine par une violence clairement. Faite au corps des
en
femmes.
En fait, vu que j'ai lu, j'en ai pas parlé tout à l'heure, parce que pour moi, c'est pas vraiment dans la catégorie lecture et essai, mais en fait, vu que j'ai lu plusieurs témoignages de mecs qui étaient passés à l'acte aux États-Unis, pour moi, c'était évident que la trajectoire, elle se finissait pas bien. Et l'actualité, ça s'est radicalisé depuis le moment où j'ai fait mes recherches. Ça va pas beaucoup mieux. Enfin, ça va moins bien.
Et ce qu'on entend dans la voix d'Adrien Brossard, de tenter des explications, d'aller chercher du côté de, à la fois du système, mais aussi de l'enfance des individus. Est-ce que c'est quelque chose qui, parce que c'est pas tant quelque chose qui existe dans votre bande dessinée. On a le milieu familial, mais ça va pas beaucoup plus loin. On a quand même cette phrase "J'étais un roi". Dans la famille, j'étais un roi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et la place que vous lui avez donnée?
Ça m'intéresse beaucoup. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit. Et moi, il y a un autre... Quand j'ai réfléchi à ça, il y a un autre truc qui m'a frappée, c'est le rapport à l'empathie qu'on a dans l'éducation des petites filles et des petits garçons. C'est peut-être aussi parce que, vu que je viens de la littérature jeunesse, j'ai fait beaucoup d'ateliers dans les écoles et j'ai vu un peu ce qu'on faisait lire. Et en fait, je me suis rendu compte que les filles ont vraiment l'habitude de se projeter dans des récits où c'est des garçons, où c'est des animaux, où c'est un peu tout. Et les garçons ont beaucoup plus de mal à se projeter dans des personnages qui sont autre chose qu'eux. Et je trouve que ça influe énormément, en fait, sur le rapport à l'autre quand on devient adulte.
Être capable de se dire, ouais. Si je fais ça, que va-t-elle sentir? Que va-t-il sentir?
Quelqu'un qui a une vie différente de moi, qu'est-ce que ça pourrait être, se mettre à la place des autres? Et en fait, quand j'ai lu des témoignages de ces mecs-là, ils n'arrivaient pas du tout à se mettre à la place de ce que c'était que d'être une femme, de ce que c'était, en fait, je ne sais pas, de sortir dans la rue, ce qui se passait, le rapport au corps, toutes ces questions-là, c'est vraiment pas du tout quelque chose qu'on éduque aux garçons, en fait, de s'imaginer ce que c'est que d'être autre chose. Ça vaut aussi pour les races, et ça vaut pour les animaux, pour pas mal de choses, quoi.
Vous avez évoqué la figure de l'artiste Chris Ware. On va l'écouter ici au micro de Toufik Hakem en avril 2018 sur France Culture. Il parle de son rapport aux histoires qui, semble-t-il, prend presque plus de place que la conception du livre.
I really have no interest in design at all, insofar as it has to do with the structure of a book and how it affects its
et l'incidence que ce peut avoir sur la compréhension et l'émotion du lecteur. Tout ce qui m'intéresse, c'est le récit, la narration, raconter des histoires. Comme j'ai tendance à le dire parfois, j'oublie que je suis artiste, dessinateur, illustrateur. Je me considère plus comme un écrivain parce que je raconte des histoires. Mais je me rends compte tout de même que je suis un artiste visuel. Par conséquent, tous les dessinateurs de BD, tous les auteurs, doivent tenir compte de la structure, du poids, de la texture, du poids, de la couleur, tout ce qui constitue un livre. Appelons ça la conception, si vous voulez, mais au-delà de ça, la conception ne m'intéresse pas.
It was entirely organic.
Tout s'est fait de manière tout à fait naturelle.
J'ai
avancé pas à pas, mais s'agissant du travail d'impression, je savais que je voulais un papier qui ne soit pas un papier brillant. J'aime pas l'aspect d'un papier brillant. Je voulais que l'encre soit dans le papier plutôt que sur la surface, mais en dehors de ça, la structure des albums a pris forme à mesure que je déroulais le récit. Mais en fait, toute cette structure m'est venue au fil de l'eau. Il y a des pages qui sont en miroir d'autres pages, d'autres albums, et c'est ainsi que le récit s'est constitué. Ça, j'aurais pas pu le prévoir, j'aurais pas pu le concevoir dans mon esprit. Donc tout ça, ça m'est venu au fil de la réalisation.
Est-ce que vraiment on croit à l'artiste Chris Ware en 2018 qui dit « Je n'ai vraiment aucun intérêt pour le design. Ce que je veux, c'est raconter des histoires. » Est-ce que vous voulez dire deux mots de ce travail de Chris Ware et comment est-ce qu'il est, il a été éventuellement inspirant pour le vôtre, Laurie Agusti ?
Il y a plein de choses. En fait, déjà, comme Jacques Demy dans le cinéma, c'est des gens qui peuvent raconter vraiment des choses assez quotidiennes. Et les éclater complètement dans la forme pour que ça devienne du coup un objet où il n'y a plus du tout de quotidien dans ce qu'on voit. Ça peut être Chris Ware avec Building Stories où en fait on n'est plus du tout dans un livre et la narration est totalement inversée selon ce qu'on va lire en premier. Et Jacques Demy, ça va être d'injecter de la comédie musicale dans une scène a priori de juste une fille mère qui raconte qu'elle est enceinte et qu'en fait elle a baisé normalement comme tout le monde, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en fait, cette différence entre le choix de la forme et le choix du fond. Et après, Chris Ware, c'est quelqu'un qui réfléchit le livre, et encore, le livre, c'est un mot un peu faible pour son travail, en tout cas, l'histoire, d'un point de vue totalement global, en réfléchissant énormément au sens de lecture, à l'objet, à plein de choses. Et moi, en tout cas, moins dans la partie théorique de l'objet, parce que j'ai toujours fait des livres qui avaient quand même une forme classique de livre, mais la partie choix du papier, choix des encres, photogravure, tout ça, c'est quelque chose où je suis extrêmement impliquée parce qu'en fait, vu que je fais des dessins à la peinture, s'il y a un trop gros gap entre mes dessins et l'objet à la fin, je suis malheureuse, donc je m'implique de plus en plus là-dedans. Et c'est Philippine Marquet qui a fait la photogravure du livre, et on en a beaucoup parlé sur le choix des encres pour l'impression, pour rendre au mieux possible les dessins, quoi.
Et ça fait partie, quand je disais tout à l'heure en introduction, que c'est vraiment aussi une aventure plastique, c'est que ça fait vraiment partie de ce qu'on vit en lisant cette bande dessinée Rouge Signal, c'est-à-dire qu'il y a tout ce que nous venons de dire, et puis il y a la plongée dans votre œuvre, en fait, vraiment, dans vos matières, dans vos couleurs, dans vos dessins. Et c'est vrai que l'édition de si grande qualité y participe, et on n'imagine pas du tout la même chose avec un papier glacé où tout serait aplati. Là, il y a beaucoup de matière, il y a presque beaucoup de corps, d'une certaine manière.
Mais ça, c'était très important, justement, la partie matière, au sens littéral du terme, c'est que normalement, je fais de la gouache normale, et là, c'est de la gouache que je passe sous la flotte, et du coup, ça fait ressortir la fibre du papier, et c'est ce qui m'intéressait pour l'écarnation des personnages. Donc, l'aspect matiéré était déjà très présent, en fait, au tout début, quand j'ai décidé de faire ça avec cette technique-là, et pas avec de la gouache normale, il y avait l'idée que le papier allait être présent, et donc quand on a parlé de l'impression, cette question-là, elle s'est reposée sur comment faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de le faire avec les éditions 2042, c'est que a priori je savais que les questions de fabrication, on allait se les poser.
Et ça, c'est vraiment très appréciable. Le book club continue. Et à cette heure-ci dans le book club, c'est un petit moment agenda. On essaie de pas du tout particulier, de partager des initiatives, des événements, des promenades, des rendez-vous en lien avec le livre, la lecture, l'écriture. On voulait vous parler d'un festival qui s'appelle Formula Boula, qui se tiendra à Paris du 26 au 28 septembre à Césure. C'est un tiers-lieu qui est situé dans le 5e arrondissement de Paris. Et pour cette 13e édition, le festival tisse une programmation autour d'une figure centrale, une figure féministe, anticonformiste, reconnue comme pionnière. C'est une américaine, elle s'appelle Aline Kominsky Crumb. Le sexe, les addictions, le rapport complexé au corps, le patriarcat, les violences intrafamiliales, ou bien encore les douleurs comme les plaisirs d'être en vie, l'amour, sont des thèmes qu'Aline Kominsky Crumb a particulièrement creusé tout au long de sa vie d'autrice et de bande dessinée. Et pour accompagner l'exposition et les rencontres qui sont consacrées à cette figure de la BD underground, le festival convie des autrices qui explorent, elles aussi, et des auteurs, les fictions, les autofictions, tous ces combats féministes et tout ce rapport à l'émancipation. Et vous serez présente à ce festival, Laurie Agusti, où votre livre Rouge Signal est en sélection pour un prix qui s'appelle Prima Boula. Les auditeurs et lecteurs pourront par ailleurs vous rencontrer le samedi 27 septembre. C'est mon anniv à 14h. Ouais.
Bon anniversaire.
Peut-être viendrai.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et on termine en jouant tous les jours dans le Book Club à un grand jeu, le grand jeu des pages musicales. On invite tout le monde à repérer de la musique dans les livres. On n'en a pas trouvé dans le vôtre.
En fait, j'ai écouté beaucoup de musique en l'écrivant, mais j'ai pas cité de musique en particulier.
Ouais. Voilà. On peut imaginer qu'il y a éventuellement de la musique dans toutes les vidéos qui sont scrollées, notamment par Alexandre, mais il n'y a pas d'évident,
même la évidente. Scène du club, voilà. C'est pas évident.
Exactement.
Il y a la scène du baiser qui est un clip qui passait quand j'étais ado. De morceaux d'électro où c'est des gens qui s'embrassent en gros plan, et c'est ça qui m'a servi pour dessiner des gens qui s'embrassent en gros plan. Donc la musique est là.
En tout cas, on a été chercher de la musique dans un roman dont on parlait dans l'émission d'hier. Le roman s'appelle Les Projectiles. Il est signé Louise Rose et il est paru chez POL. Entre-temps, quelqu'un a éteint la lumière et ça fait Maïa I. Maïa O, Maïa O, Maïa AA. Le dance floor s'enflamme aussitôt. Les danseurs reprennent en chœur l'incantation. Trois fois de suite. Personne ne peut résister au magicien d'Ozone. Allô, salut. C'est l'effet Dragoste Dintei. Ça uniformise tout. Tout le monde est comme tout le monde, même bébé. C'est comme les lacs du Connemara. On connaît la chanson mais pas les paroles. Tout le monde se met à faire du yaourt moldave, du yaourt à hurler très très fort. Nouma, noumaillé, nouma, nouma, noumaillé. Bébé tente de faire quelques figures de hip-hop, mais son corps ne s'en souvient plus. Sa toupie est pourrie, elle arrête d'essayer. Mourir sur scène, c'est bien beau, mais là c'est pas le moment.
Sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei.
Voilà, c'est un petit cadeau de l'équipe du Book Club pour que vous ayez ça dans les oreilles et dans la tête pour toute la journée. Vous penserez à nous. Merci beaucoup, Laurie Agusti.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous aujourd'hui. Rouge Signal, c'est le titre de cette bande dessinée géniale parue aux éditions 2042. Au son aujourd'hui, on s'est bien amusé. C'était Jean-Guilain Meige à la réalisation Vivian Demeyer. Merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser et préparer et programmer ces émissions. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Garance Roubieux, Cyril Marchand et Alexandra Lajbegovic qui animent la conversation sur le compte Instagram du Book Club. Vous pouvez nous écrire si vous voulez. J'en profite, on a un tout petit peu de temps. L'adresse de l'émission, c'est lebookclub@radiofrance.com. On est toujours curieux et curieux de vous lire.